Je suis une enfant de Guernica. Guernica, pas seulement un tableau, une véritable tragédie. Le premier bombardement d'une population civile dans l'histoire de l'humanité. Mon père avait 11 ans quand Guernica a été bombardé. Il n'avait pas choisi de naître au Pays Basque ni de vivre dans un village tout proche de là. À 11 ans, il a été condamné à l'exil et je suis née de cet exil. Écrasée par la souffrance, mon père ne m'a rien transmis de cette histoire. C'est moi qui ai choisi de parcourir le chemin à l'envers. Aujourd'hui, je veux vous dire combien, vu d'ici, vu du Pays Basque, les événements de ces derniers jours ont été vécus douloureusement et combien nous avons eu le sentiment d'une double peine. Peine comme douleur et comme condamnation. Douleur immense et accablement face au massacre sans nom qui s'est produit à Madrid. Et douleur encore face à toutes les mises à l'index, les accusations, les condamnations proférées à longueur de journaux, de colonnes, de chroniques à l'encontre de toute une communauté. Car amalgame oblige, et ils ont été nombreux, c'est tout le peuple basque qui s'est senti traîné dans la boue, sali et injustement accusé par une déferlante de propos inconsidérés et terriblement blessants. Tout le monde a compris aujourd'hui l'enjeu de ce mensonge à l'échelle d'un État, de cette manipulation monstrueuse, heureusement sanctionnée par le vote des citoyens espagnols. Face à cette manipulation, nous espérions des remparts, des sources d'informations autres que celles alimentées par le seul gouvernement espagnol. Mais les remparts n'ont pas toujours été là où nous les espérions. Et à ce propos, je veux dire ici ma colère contre le journaliste du Monde diplomatique, Cédric Gouverneur, qui est intervenu à deux reprises sur l'antenne de France Inter. Ses propos accusateurs, sa virulence, pour ne pas dire son acharnement à entretenir l'hypothèse de la piste basque, m'ont laissé sans voix, venant d'un représentant du monde diplomatique qui reste pour moi une alternative précieuse à la désinformation ambiante. Je ne crois pas avoir entendu accusation plus violente, y compris dans la bouche de personnalités réellement impliquées dans la lutte contre le terrorisme.
Le peuple espagnol vient de nous donner une bien belle leçon de civisme et de courage. Rappeler à ceux qui y gouvernent que c'est encore le peuple qui élit. Le peuple attend d'autre chose de ses gouvernants que le mépris et le mensonge. Pour ce qui est de la France, il y a encore du chemin à faire, non ? Alors soyons nombreux à voter contre les menteurs et les voleurs. Bravo pour le courage de nos voisins et frères espagnols.
Oui, salut Daniel, c'est Vincent. Je voulais te remercier pour toutes tes belles émotions de radio. Et puis merci pour celles que tu vas faire sur le Rwanda. Mais je voudrais aussi que tu n'oublies pas le Burundi, qui a connu autant de malheurs que le Rwanda et qui en connaît toujours. Ah voilà, merci pour eux. Allez, bonne continuation, salut.
Un assassin vous tend la main. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous lui serrez la main ? C'est un assassin qui a du sang sur les mains, un assassin qui a massacré, qui a violé et qui a avoué 10 meurtres au minimum. Il a opté pour le plaider coupable. Donc, il en a avoué 10. En vérité, dit-on, c'est beaucoup plus. Alors, est-ce que vous lui serrez la main ? Je vous dis ça parce que là où je suis, quelque part au Rwanda, à Kibungo exactement, sous mes yeux, là, devant moi, il y a une prison. Et autour de cette prison, il y a des gars habillés en rose, tous de rose vêtus, qui sont des prisonniers qui font des peines pour des condamnations liées au génocide du Rwanda. Alors je continue de vous poser la question. Est-ce que vous lui serrez la main, ce gars-là ? Il en a pris pour 25 ans. Il en a déjà fait 8. Il vous sourit, vous fait un grand sourire. Et pourquoi il vous fait un grand sourire ? Eh bien, parce que vous êtes français. La France, c'est le pays des amis d'Abiarimana, l'ex-président assassiné le 6 avril 1994. La France, pour ces gars-là, c'est le pays du président Mitterrand qui a tellement, tellement aidé l'ex-président Abiarimana. Et avouez que c'est quand même assez gênant. Et que c'est très gênant même. L'implication de la France dans le génocide du Rwanda, dans la préparation du génocide du Rwanda, il en est largement question actuellement dans toutes les conversations suite aux révélations, entre guillemets, du juge Bruguière concernant l'origine de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Grave et grande question, mais l'essentiel, c'est tout de même de considérer que ce qui s'est passé ici il y a 10 ans, c'est quand même une histoire avant tout qui concerne les Rwandais. C'est eux qui sont pleinement responsables de ce qui s'est passé ici. En second lieu, mais en second lieu seulement, eh bien, il a les responsabilités lourdes et graves de la communauté internationale et sans doute au premier rang, la France. C'est ce dont il sera question, entre autres, dans la série qu'on vous présentera à partir du 30 mars. D'ici là, aujourd'hui, troisième volet de la série sur les intérimaires, les ouvriers et les oubliés, l'histoire de Renault. D'ici, j'ai entendu vos messages. Vos messages me sont parvenus jusqu'ici au Rwanda grâce à la magie du magicien Christophe Imbert qui m'a fait écouter. Donc d'autres messages. Donc aujourd'hui, les ouvriers et les oubliés et d'autres messages. Je rappelle encore une fois le numéro du répondeur de la passe. J'y suis, 01 56 40 37 37.
L'abus de cigarette nuit effectivement à la santé, mais que pensez-vous finalement de l'abus de licenciement, ce qui est bien pire encore? Moi je pense notamment aux Gad El-Tadis, qui sont 540 à se retrouver sur le carreau, voire plus encore, puisque quand une entreprise ferme, eh bien, on a des chauffeurs routiers, on a des gens qui font le ménage, on a des gens qui font le gardiennage, etc., etc. Bon allez, ça fait énormément de gens sur le carreau. Alors pour les soutenir, on fait un concert le samedi 20 avec énormément de gens et nous espérons vous y voir nombreux le samedi 20 devant Altadis de 11h à 23h toute la journée dans une ambiance festive pour soutenir les victimes du licenciement et les victimes à venir, parce que je pense que ce sera pas fini, mais nous on essaye de dire stop. Alors stop au licenciement et voilà. Merci, j'espère que vous serez là tous. À bientôt.
Oui, bonjour, Valérie, infirmière dans le Lot. Je suis évidemment solidaire des victimes des attentats en Espagne, mais je suis aussi profondément solidaire des Tchétchènes qui se font massacrer par l'armée de Monsieur Poutine en toute impunité, et je suis profondément solidaire de tous ces gens qui meurent, souffrent de par le monde au nom certainement des deux plus grands dieux qui le dirigent, pouvoir et argent. Y aurait-il des victimes qui méritent plus de recueillement que d'autres? Je ne pense pas. Alors silence tout court. Merci pour vos émissions. Bye.
Salut Daniel, c'est Pierre de Brest. Je fais partie du collectif étudiant du Technopole Brest-Tiroise qui soutient le mouvement Sauvons la Recherche, qui a plus besoin de présenter. Alors je t'appelle pour inviter tous les citoyens de Brest et d'ailleurs à un meeting qu'on organise à la fac Victor Segala en amphi 3 le jeudi 18 mars. À 17h, où on va présenter nos travaux de recherche et après on va élargir les débats sur la recherche en France en général. Donc ça sera à la fac de lettres Victor Segala en amphi 3 le 18 mars à 17h et tout ça à Brest. Salut.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que demain est un grand jour, demain 17 mars. C'est une journée nationale d'action dans le secteur sanitaire et social, et surtout social. Ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Une journée d'action pour lutter contre un avant-projet de loi. Un avant-projet de loi du ministre de l'Intérieur qui veut faire des travailleurs sociaux des délateurs. Et il est hors de question que ce projet passe. Monsieur Sarkozy, puisqu'il s'agit de lui, entend nous mettre sous la tutelle des maires, d'une part, et mettre ces mêmes maires sous la tutelle des préfets pour que ceux-ci appliquent sa politique de la prévention de la délinquance. Il faut dire que c'est une définition de la politique de prévention de la délinquance assez particulière, puisque Monsieur Sarkozy ne prend pas du tout en compte le malaise des auteurs, il prend juste en compte les actes des délinquants, et ces mêmes délinquants, et il entend par ce projet les éradiquer tout simplement de la planète. Voilà, donc amis citoyens, confrères d'infortune, camarades, je sais plus qui encore, tout le monde, nous vous appelons à vous mobiliser dès demain. C'est le début de la lutte et j'espère qu'elle sera la plus courte possible pour remettre ce projet au placard. Salut, c'était Lionel de Bordeaux.
Alors Jean-Paul, Nice, je t'appelle Une petite remarque, on est à l'aube d'un printemps social qui risque d'être encore remis au calendre grâce à petites annonces de nos amis islamiques ou pseudo-islamiques ou peut-être des bonnes blagues de Monsieur Raffarin. Donc grâce à ce terrorisme et aux dernières petites annonces que j'ai entendues au 18-19, là, 18h20, là, parce qu'il y aurait le groupe des amis d'Allah. Donc là, ça y est, on va reparanoïer la France. Dans quelques semaines, après le Tchador, l'automne dernier, on rentre dans une nouvelle procédure pour endormir le monde. Et ça permettra encore des centaines, des milliers de licenciements. Je fais partie d'une compagnie qui n'existe plus. Enfin, je faisais partie d'une compagnie qui n'existe plus. Encore une, mais le virage est amorcé dans tous les grands secteurs de l'activité. Merci, M. Raffarin, et à bientôt. Et luttons.
Ouais, c'est Ben de Paris. Je viens d'entendre notre émission, sujet des intérimaires de Renault. Moi, j'ai participé en fait au recrutement pendant pas mal de temps sur Paris pour plusieurs sociétés et en fait pour confirmer qu'il y a bien de la discrimination à l'embauche. J'y ai participé dans le cadre de directives que l'on m'a données. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les agences d'intérim et eux également font beaucoup de discrimination à l'embauche. Il faut savoir que dans certaines agences sur les petits dossiers d'entreprise, certains notent le sigle NBBR, ce qui veut dire non bleu blanc rouge. Donc vous voyez un peu le niveau. Et voilà, ça c'est le recrutement en France. C'est pas le cas partout, mais malheureusement c'est quand même très 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 développé.
J'habite la Haute-Savoie et je fais partie d'un service RH pour le recrutement des intérimaires. Alors je voulais simplement préciser que ce que j'ai entendu est vrai et applicable, je pense, à beaucoup de sociétés. Mais nous, en plus, lorsque nous contactons une agence d'intérim, nous précisons que nous voulons des intérimaires BBR, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est Joël de Haute-Savoie. Au revoir et merci pour vos émissions.
Tous les syndicats organiseront une collecte pour aider Franck sans salaire depuis un mois.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, les ouvriers, les oubliés.
Flight number 2, arriving from...
Bon, on s'est battu, on a obtenu des acquis. Et puis, au fil des années, maintenant, bon, tu vois, t'es arrivé tout de suite avec 30 années d'ancienneté. Même si on est privatisé, Renault, c'est la France, c'est quelque chose d'immense.
Pour moi, l'intérimaire, c'est... on sert des gens, une fois qu'on en a plus besoin, on les jette, quoi, c'est tout.
Tout le temps, ils nous disent en plus, t'es pas content, hein? Eh bien, alors regarde, il y en a 6000 qui attendent dehors. Tu sais, la porte, elle est grande ouverte comme ça.
Nous, on n'est pas des sauvages. On a envie de travailler, qu'ils nous donnent du travail, on travaille, c'est juste ça. Mais le fait de travailler et puis de virer les gens comme ça, franchement, ça n'a pas de sens. C'est l'esclavage moderne. Leur façon de parler, ils nous appellent des intermerdes.
Oh là là, je vois qu'il est bon, 13h que je vais commencer à travailler. Puis mon Dieu, je suis pas arrivée à 9h. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Et bon, parfois j'enlève ma montre. Je la mets dans un coin pour pas la regarder là, parce que sinon je suis toujours pendue à regarder la montre. Je suis pas raciste, mais je suis un peu raciste quand même.
Alors je me suis donné du mal pour en arriver là et j'y arrive.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25, Elle est belle. On se croirait dans un carrosse. Papa, c'est le cocher. Et moi, je suis Cendrillon. Plus vite, montez la glace. Papa, il peut faire tout ça sans bouger ses mains du volant. Faut être fort pour faire ça.
Renault, des voitures à vivre.
Et voilà, Cendrillon et papa, bien peinard, bien au chaud, dans la petite auto, et vous aussi. Mettons dans votre petite Renault, mais ça peut être une autre marque, ça peut être n'importe quel autre objet. Regardez un aspirateur, un fer à repasser, une bouilloire ou même un vibromasseur. Tous ces objets, ben, ils sont faits comment, hein? D'où ça vient, ces objets? Eh ben non, c'est pas fait par des robots. Il n'y a pas que des robots qui font ces objets. Il y a encore des ouvriers qui vissent, qui serrent, qui bougent, qui poncent, qui bordent, qui font tout ça. Et oui, des ouvriers. Un mot dépassé, ringard, honteux. Classe ouvrière, condition ouvrière. Alors là, si vous dites des mots comme ça, vous êtes classé, étiqueté, stalino, gaucho, nostalgique. Et pourtant, les ouvriers sont toujours là. Ils sont toujours le premier groupe social en France, le plus important, de 6 à 7 millions, même si ce groupe social a bien changé. En tout cas, sans image, sans représentation, vous avez qu'à regarder votre télé du matin au soir, ben on les voit guère, c'est un genre de silence radio. On n'est pas fiers d'eux, et eux non plus, nos nouveaux prolétaires ne sont pas très fiers d'eux-mêmes. Ils se sont déguisés, ils ont disparu, ils cherchent à se faire oublier. Si vous pensez aux images d'après-guerre, aux images des années 50, 60, le bleu de chauffe encore, la casquette, le béret, etc. Tout ça, ça a disparu. Voilà pourquoi on est allé avec Thierry Scharf à Sandouville, une usine de Renault du Havre, je vous l'ai expliqué, suite à cette élimination de 900 intérimaires. On pourrait résumer cette classe ouvrière ou cette condition ouvrière aujourd'hui, si on en croit nos sociologues Beau et Pialou, à trois figures. Il y aurait Christian, qu'on entendait tout à l'heure, qui disait « on a obtenu des acquis ». Lui, il est le syndiqué, politisé, retraité, fier de Renault, fier de son histoire, finalement, à l'intérieur de cette classe ouvrière ou de cette condition ouvrière. Première figure. Deuxième figure, c'est celle un peu des ouvrières de Lévis, vous vous souvenez, qui ont été licenciées après 20 ans d'ancienneté et qui tout d'un coup ont été jetées après avoir lutté toute une vie. Deuxième figure. Et puis troisième figure, troisième génération aussi, celle qui est incarnée par ces futurs opérateurs, on les a rencontrés déjà hier, on dit plus ouvriers, on dit opérateurs, c'est le jeu d'euphémisme classique, qui sont presque tous originaires des cités sensibles, c'est-à-dire les cités paupérisées des années 90, et qui sont très souvent issus de l'immigration. Ils refusent tout héritage du monde ouvrier et rêvent d'une réussite individuelle, de petits patrons, un peu à la tapis. Voilà, je fais ma boîte tout seul, je monte mon affaire. Et ils ne voient plus du tout d'affinité ni de filiation avec ce monde ouvrier. Il y a une rupture qui s'est opérée en secret, presque dans notre dos, sans qu'on le sache. Je dis « on », dire le public, le reste des Français, c'est quand même beaucoup, 6 millions de personnes. Et ces jeunes, cette troisième génération, eh bien, ils sont tout simplement les victimes, toujours selon Beau et Pialou, directes de la dynamique de ségrégation sociale et spatiale qui, depuis 15 ans, opère des fractures béantes dans l'univers des classes populaires. Et ces fractures béantes, évidemment, peuvent en partie, expliquer, être la cause, les causes des maux dont on nous parle tant, insécurité, repli sur soi. Et puis, souvenez-vous du 21 avril dernier, le vote pour le candidat d'extrême droite. Ces phénomènes qu'on a présentés comme des phénomènes, évidemment, ne relèvent ni de la météorologie sociale, ni de la fatalité. Ces phénomènes ont des causes, et il se pourrait bien que ces causes, eh bien, on puisse les trouver en partie dans cette condition ouvrière actuelle. En tout cas, d'ici à 18h, si vous restez à l'antenne, si à l'écoute, et si vous êtes dans votre voiture, vous risquez de la regarder un peu différemment.
Et alors, mademoiselle, vous voyez pas que vous faites du 100 à l'heure avec votre Renault, là?
Nous accusons Chirac d'avoir saboté la production de la régie nationale des usines Renault.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25.
Renault, la vitrine sociale des années 50, 60, 70 a complètement tourné le dos au progrès social.
Plus ricochet que moi, ricochet.
Rappelez-vous, camarades, dès l'annonce de la fermeture de l'usine de Villeborde, l'action Renault a fait un bond de 13% à la bourse. Le drame est que ceux qui nous dirigent considèrent le travail comme un coût et la bourse comme moyen de revenu.
Renault Occasion, un goût certain pour la perfection.
Bon, ben, s'il y avait quelqu'un qui était dans la merde, qui avait un problème, bon, ça me gênait pas de se mettre sur le côté, faire une grève, hein. D'arrêter la chaîne, puis on travaillait pas, on était avec lui, hein. Que maintenant, ça se fait plus. Comme là, il y a un petit jeune qui est viré. On a trouvé 4 paires de gants dans son sac. Il y a eu une heure de grève de fête il y a 15 jours. Ben, il n'y a pas beaucoup qui sont partis. Hein. Sur ma chaîne, on était 2, 3. Ça fait que le petit jeune, on ne sait pas si on le reverra. Hein. C'est à chacun pour soi.
Chacun pour soi, dit Daniel, cette ouvrière, je ne sais pas si on dit ouvrière ou opératrice chez Renault, donc à Sandouville. Alors elle évoque l'histoire de Franck et on va passer un petit moment avec ce garçon, Franck, qui vient de se faire virer. Alors lui c'est un Renault, hein. Il y a les intérimaires et puis il y a les Renault, c'est-à-dire les embauchés. Lui c'est un embauché, c'est un Renault. Et il vient de se faire virer. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il a volé un quignon de pain. Il va pas se retrouver au bagne, mais simplement, il a été pris avec des paires de gants dans son sac. 3 ou 4 paires de gants d'une valeur de 3 € la paire. Et bien pour cette raison, il a été viré, mis à pied. C'est un système de tolérance zéro. Hein, c'est la tolérance zéro, c'est qu'il vole un œuf, vole un bœuf, donc toc. Et encore, faut-il prouver qu'il l'a volé, ce qui est loin, loin, loin d'être évident. On voit que on est un petit peu à Sarcolande là, hein, chez Renault. Voilà l'explication que donne Franck. Il s'appelle Anquetil, comme notre Anquetil à nous. Franck Anquetil, ça sent bon la Normandie, mais c'est pas si gay.
Pour en savoir plus, cliquez sur renault.fr.
Étonnant. En fin de semaine, je suis sorti de l'usine. J'ai eu le droit à un contrôle des vigiles, auquel j'ai pas voulu ouvrir mon sac, ce qui est mon droit. À la suite de ça, un deuxième vigile est arrivé. J'ai toujours pas voulu ouvrir mon sac. Ensuite, un troisième est arrivé. Et sous la menace de me prendre ma carte et que je sois viré, j'ai ouvert mon sac. Et quand j'ai ouvert mon sac, ils ont trouvé mes 2 t-shirts sales. Et mes paires de gants de l'usine pour travailler, pour le mot lundi, quoi. Et ils m'ont accusé de vol. Puisque j'ai pas accepté qu'on m'accuse de vol devant plusieurs de mes camarades et devant, enfin, toute l'usine, quoi. Et j'ai un peu pété les plombs, puis je suis parti. Puis à la suite de ça, j'ai reçu une lettre recommandée chez moi, comme quoi j'étais mis à pied. J'ai dû rencontrer la direction, expliquer ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, ça s'est très mal passé, car ils m'ont licencié. Ils ont pas voulu m'écouter, puis ils m'ont licencié. Enfin, là-bas, ça s'est très bien passé. Ils avaient l'air correct, et puis ils m'ont pas écouté, en fin de compte.
Donc, tu avais dans ton sac tes gants que tu utilises dans le travail?
Voilà, mes gants de protection.
Les gants qui valent cher, c'est...
C'est les 4 paires de gants. On a fait le total, j'en avais même pas pour 20 francs. Enfin, ce qui est ridicule, quoi. Puis en plus, ces gants-là, je les ai pas volés. Ils nous les donnent toujours le vendredi ou le jeudi, ça dépend si on travaille le vendredi. Ils nous les donnent à la fin de la semaine. Et soit on les garde dans notre sac, ou soit on les met dans le casier. Moi, ce que je fais, c'est que je les garde dans mon sac. Comme ça, le lundi matin, quand je reviens, je les ai sur place. J'ai pas à les chercher, ils sont dans mon sac, j'arrive sur mon poste, hop, je les sors, ils sont là. Quand j'ai expliqué ça à la sécurité, ils ont pas voulu m'écouter. On m'a accusé d'avoir volé des gants qu'on m'a passés, alors que j'ai, pour travailler, alors que j'avais jamais eu l'intention de les voler et j'allais revenir le lundi avec pour travailler. J'arrive même pas à le comprendre pourquoi m'accuser de vol. Alors que j'ai rien volé, pour moi j'ai rien volé. Et à la suite de ça, le licenciement, pas de prime, rien, que dalle, au revoir.
Pourtant toi t'étais un embauché.
J'étais embauché, je travaillais très bien, je faisais mes samedis, à chaque fois qu'on me demandait de faire des heures supplémentaires, j'étais le premier là. Alors je comprends pas. Pour moi, j'étais un exemple pour montrer qu'ils ont remis des vigiles, parce que pour montrer la crédibilité des vigiles. Parce qu'ils ont mis des vigiles et enfin ils font chou blanc, il y a du vol chez Renault. Ils font chou blanc, puis moi ils ont trouvé des gants, donc voilà. Ils veulent montrer qu'ils sont là pour quelque chose. Et pour eux, vu que j'ai volé, bah...
Tu sers d'exemple, quoi.
Ouais, un exemple, mais un mauvais exemple. Moi, j'ai un enfant, je vais faire comment? Pour des gants. Des gants que j'ai pas volés.
T'as quel âge, toi?
24 ans.
C'est ton premier boulot, Renaud?
Depuis que je sors de l'école, oui, j'ai toujours travaillé à Renaud. J'ai fait plusieurs missions d'intérim. Ouais, j'ai ramé parce que j'ai fait un CQPM. Un CQPM, c'est 65% du SMIG. Ça fait du 5000 francs par mois.
CQPM, c'est quoi?
C'est une formation pour avoir un petit diplôme. Alors moi j'ai fait ça pour être embauché parce que j'avais envie d'être embauché. Donc j'ai fait ça à 65% du SMIC, je sais pas si vous voyez ce que ça fait tous les mois. Alors je me suis donné du mal pour en arriver là et viré.
1, 2.
Les organisations syndicales EFO, CGT, CFDT, CFTC vous appelle demain vendredi 8 novembre à 1h de grève pour la réintégration de Franck Anquetil licencié abusivement. Ne laissons pas la direction faire n'importe quoi. De plus, ce mardi 12 novembre, tous les syndicats organiseront une collecte pour aider Franck sans salaire depuis un mois.
J'ai un père qui travaille chez Renault.
Ton père travaille chez Renault.
Enfin, il n'est pas en chaîne comme moi. Il a une place, on va dire, une très bonne place chez Renault. Il est dans les bureaux d'Eli au Tristock. Moi, depuis que je suis petit, j'entends parler toujours de Renault. Alors, quand il m'a vu mettre les pieds dedans, il s'est dit, bon, déjà, c'est déjà un pied, c'est déjà bien. Quand j'ai fait mon CQPM, il était encore plus content. Il se dit, CQPM égale, s'il est bien, il se fera embaucher. Et quand j'ai eu mon embauche, bah, c'était la joie, quoi. Dites, c'est Renault, c'est quand même une grande entreprise, on va dire prestigieuse quand même. Elle est connue de tout le monde. Il dit, c'est quand même pas mal, tu travailles là-bas, c'est quand même quelque chose, quoi. Puis, bah maintenant, je vais pas dire, Renault, c'est bien, mais je serais plutôt du genre à dire, Renault, c'est une aventure à ne pas vivre, quoi. Parce que, même les voitures, hein, c'est du travail, hein. Les gens, ils voient pas ce qu'on fait, nous, chez Renault. Hein. Le boulot, c'est très dur chez Renault, le montage. Hein. On doit faire une quarantaine de voitures à l'heure.
40 voitures à l'heure.
Une 26, une 30, pour faire une voiture.
Une minute 26.
Une minute 26. Physiquement, enfin moi j'ai connu des postes comme les éléments tournants ou les porteurs chaînes, c'est-à-dire les suspensions. On les met à la main, les suspensions, il y a des suspensions très lourdes. Et quand on revient chez nous après 8 ou 9 heures de boulot, on n'a qu'une idée, manger, aller se coucher. Enfin c'est pas facile, Renault. Parce que à faire un geste répétitif toute la journée, à la fin, faut que ça suive dans la tête, hein. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, quoi. Parce qu'il y a des moments, on va dire, c'est facile de péter un câble.
Pour retrouver la santé, vous allez chez le médecin. Pour retrouver le freinage d'origine de votre Renault, vous allez chez Renault. Où vous bénéficiez de l'expertise de ceux qui ont conçu votre voiture.
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault?
Ton cas, ça fait l'unanimité dans tous les syndicats. Tous les syndicats ont pris position en ta faveur.
Que tout le monde s'est rendu compte que c'est n'importe quoi. La direction a fait n'importe quoi. Il y a eu une grève, deux grèves dans chaque équipe. Enfin, une grève dans chaque équipe. Il y a aussi des... Qu'est-ce qu'il y a eu? Du lancer de gants devant les tourniquets.
Ah ouais?
Beaucoup de mes collègues, à la fin de leur journée, gardaient leurs gants sales. Ils les mettaient dans un sac et à la sortie, ils versaient les sacs, ils jetaient les gants pour montrer leur mécontentement, quoi.
Et malgré ça, ils reviennent pas sur leur décision.
La direction... ne donne même pas de nouvelles, par exemple. Elle veut plus rien entendre. Pour eux, ce qui est fait, quoi. À croire qu'ils ont pas de cœur et pas de famille, ces gens-là. Ils ont tort, ils admettent, et puis on n'en parle plus. Mais eux, non. Ils persistent et ils signent.
Voilà, l'histoire de Franck Anquetil, donc ce jeune ouvrier de Renault. Alors on continue. On continue, toujours chez Renault, toujours à Sandouville. Hier, on a rencontré Samba et Mamadou. Alors, eux, bah oui, comme leur nom le suggère, leurs parents sont africains. Eux, ils sont français, nationalité française, mais d'origine africaine, ce qui est quand même différent. Différent parce qu'on sait qu'il y a une ségrégation, il y a une discrimination à l'embauche. C'est partout que dans toutes les boîtes d'intérim, vous avez des demandes qui sont adressées à des boîtes d'intérim, et on souligne bien, on veut 5 caristes français, bah, c'est souligné, bon, la boîte d'intérim, c'est ce qu'il lui reste à faire. La lutte contre cette discrimination à l'embauche, on en parle, puis on oublie, et puis on remet ça, etc. Mais c'est évidemment quelque chose d'important. Alors, on retrouve aussi nos sociologues, Michel Pialou et Stéphane Beau. Je vous rappelle qu'ils sont les auteurs de ce livre, enfin, qui est une étude remarquable, qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière ». Eux, ils ont fait leur travail sur Peugeot. Là, on a l'air de s'acharner sur Renault, mais ça pourrait être n'importe quelle autre marque française. C'est les conditions, ça pourrait être Toyota, c'est à peu près les mêmes conditions partout dans des pays comparables aux nôtres, encore qu'il faudrait peut-être aller voir comment tout ça s'organise. Par exemple, en Allemagne, je crois que les choses sont différentes. Mais pour l'instant, on est chez nous et on est avec nos sociologues, Beau et Pialou.
Réfléchissez.
1, 2.
La question, c'est, on est un peu dans un cercle vicieux. Ce qu'on nous dit très souvent, c'est, dans les petites entreprises, on peut pas recruter d'enfants d'immigrés parce que nos ouvriers, on va dire, on prend la parole d'un chef, nos ouvriers sont racistes. Ils ne vont pas accepter. En fait, on s'aperçoit que l'étrangeté sociale de ces enfants d'immigrés, qui sont perçus comme des enfants de cité, peut relativement disparaître. Et là aussi, c'est qu'il y a des effets de socialisation qui peuvent se faire. Ce qui fait aujourd'hui ce qui fait le problème, c'est que pendant des années et des années, ils stationnaient aux portes des entreprises et on les prenait pas. Donc, il n'y a pas eu ce mouvement de socialisation qui a joué, par exemple, qui s'opère, si on compare, parce que quand on dit discrimination raciale, il faut dire les choses précisément, ce sont les enfants d'immigrés dits maghrébins, d'Afrique du Nord, qui sont les plus victimes de cela. Ou africains, les enfants d'immigrés portugais, ils ont des filières à eux, ils ont le segment du marché du travail. C'est ça qui est en jeu. Alors c'est vrai que la discrimination, c'est difficile de dire qu'il y a une discrimination dans le monde ouvrier. Il y a des formes, phénomènes de rejet, d'hostilité, mais on peut considérer aussi qu'il y a aussi parfois des agents médiateurs. Il y a aussi des délégués syndicaux qui peuvent jouer ce rôle-là, d'apprendre la tolérance entre guillemets, quoi.
Non, parce que la question est importante puisque après le 21 avril, on a beaucoup dit que le vote Front National venait du monde ouvrier.
C'est vrai, quoi. Les statistiques, les sondages d'après-vote le montrent. Alors, ce qui était peut-être le plus frappant, moi, ce qui m'a peut-être le plus frappé dans ces sondages, c'est justement le poids des jeunes. Qui vote ouvrier d'ailleurs. Donc là on voit les effets. Là il faudrait, on n'a pas fait toute l'analyse, mais il faudrait voir en quoi justement ce vote des jeunes en faveur du Front National, c'est aussi un vote de concurrence par rapport aux jeunes enfants d'immigrés, notamment parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'école. On s'aperçoit que être un jeune ouvrier en France français aujourd'hui, c'est souvent vécu comme un déclassement. Et alors que par exemple dans les cités, on voit des enfants d'immigrés qui réussissent scolairement. Donc il faudrait analyser tout ça en détail.
Cher Père Noël, je voudrais, s'il te plaît, un vélo avec deux roues, tous les dessins animés de tout le monde entier, un nouvel ordinateur, parce que j'ai cassé celui de mon papa et qui va être furieux, une poupée pour ma petite sœur, mais une qui parle pas, un ballon de foot parce que...
Réfléchissez, du 4 au 30 novembre, avec le club affaires Renault, Twingo, un litre de nouvelle collection est à 7 990 €, soit 660 € d'économie. C'est le moment de donner un bon coup de main au Père Noël.
La chaîne, elle avance, bah nous on avance avec, ça fait qu'on est comme des robots, quoi. On suit la chaîne et sans s'arrêter, quoi. Sinon, ça va couler. On continue, même si on est fatigué, on n'a pas le choix, on continue. Même c'est dur. T'en chies, quoi, si je puis dire. Moi, je veux pas dire que je suis stressé, mais je pense souvent à ce que je fais, quoi. Quand j'étais sous la voiture, je mettais des viches, des bouchons, des choses comme ça. Toute la soirée, j'avais les mains en l'air, quoi. Et j'étais assis, j'avais des douleurs au dos et tout. C'est comment dire, c'est pas...
Pourtant, t'es baraqué, jeune, en pleine forme.
J'ai que 21 ans, des douleurs de dos. Et je les ai toujours à cause de ça, quoi. Ton corps est lourd, t'as mal partout. Tu rentres chez toi, tu dors direct. T'as pas le temps de te laver, t'as le temps de rien et tout. Tu tombes direct sur ton lit, quoi. Tu comates, quoi. Ah ouais. C'est ça, quoi. Moi, je me dis dans ma tête, je veux pas être comme mes ancêtres ou comme mon père, des choses comme ça.
Moi, je peux dire franchement, j'étais fier parce que quand on m'a appelé de travailler à Renault, j'ai même appelé aussitôt en Afrique.
C'est vrai, t'as téléphoné en Afrique quand t'as été embauché.
J'ai dit à mon père, voilà, on m'a appelé pour que je travaille à Renault. Donc, j'ai dit que tu dis ça à toute la famille, maintenant, on va prendre ta place. Moi, avec mon frère, on va prendre ta place.
On va te relayer.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il a dit, le papa?
Il nous a dit, bon courage. Faites tout ce que vous pouvez dans vos forces pour que vous y restiez. Vous travaillez. Renault, c'est une très grande maison. Faites ce que vous devrez faire.
Être un Renault, c'est une fierté, hein. C'était comme la Peuge ou les Michelin de Clermont-Ferrand. C'était une fierté, c'était un honneur, c'était rentrer dans un monde auquel on appartient et dont on est fier. Et le papa de Samba et de Mamadou a vécu ça. Lui, le Sénégalais, il a vécu, il a eu cette fierté qu'il a ramené là-bas dans son Sénégal. Je parlais des Maliens qu'on a rencontrés au Mali et qui avait travaillé dans l'industrie automobile. Sauf que vous allez voir, entre Samba et Mamadou, c'est un petit peu différent quand même, hein. Il y a ces deux frères, mais vous allez voir leur sensibilité est différente. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont intérimaires tous les deux et qu'ils viennent d'être virés tous les deux dans ce plan qui a permis de se débarrasser de 900 intérimaires. Il y a 2 millions de personnes qui sont intérimaires en France, dont 1 million de moins de 25 ans. Donc voilà, dont Samba et Mamadou font partie. Et l'intérim, ça a été, pendant qu'on était en train de parler de crise, de vivre la crise, de tournant de la rigueur, on installait ce système qui allait faire d'un ouvrier une variable d'ajustement, tout simplement, et qui allait permettre de renier sur les acquis sociaux, détruire les acquis sociaux, contourner le droit du travail, affaiblir le syndicalisme ouvrier. Tout ça, c'est une lutte acharnée, une vieille lutte acharnée du capital contre le travail, qu'on le veuille ou non. C'est bel et bien ça, nouveau réactionnaire ou pas, c'est pourtant bel et bien ça qui s'est produit et qui continue. C'est une lutte qui continue, même si on la déguise, même si on la maquille, même si on ne la voit pas à la télé, même si nos intellectuels regardent ailleurs. Elle est bel et bien là, cette lutte ouvrière.
Moi, j'ai ma façon de penser et lui, il a sa façon de penser. Parce que lui, je peux dire qu'il est né ici, tandis que moi, je suis venu quand j'étais vraiment majeur et mûr. On n'a pas les mêmes points de vue. Et puis, on se vante. Des fois, il me dit blédien et puis...
Blédien ?
Blédien, on se vante.
Ça veut dire quoi, ça, blédien ?
Quoi, le blédien, c'est celui qui est né au bled ? Et qui vient d'arriver il y a pas très longtemps, disons 8 ans, des choses comme ça, quoi, par exemple. Et voilà, quoi, alors on se charrie comme ça, blédien.
Moi, je suis un peu plus compréhensif, tandis que lui, c'est toujours...
Moi, je me laisse pas faire, je me laisse pas faire, quoi. Dans ma tête, on me parle, il est pas content, je dis, je m'en fous. C'est direct, quoi, je veux pas me laisser faire. Je me dis, je suis né ici, je sais comment ça se passe. Que lui, il va plutôt essayer de parler avec eux, s'expliquer. Moi, je suis pas du genre à m'expliquer des choses comme ça.
T'as déjà eu des soucis alors là-bas, Renaud?
Ouais, j'ai eu des soucis aussi. Il y a eu des disputes, il y a presque eu des bagarres aussi. Ah, j'ai failli me battre avec un remplaçant. Mais voilà, quoi, comme je me laissais pas faire. Et tout ça, c'est venu parce que, ils voulaient pas me remplacer, quoi. J'avais un problème, je saignais.
Tu saignais?
Je saignais du nez, quoi. C'était l'été, puis il faisait chaud. Et j'ai appelé pour qu'on me remplace, quoi. Et cette personne-là, elle était dans un côté, je sais pas.
Un embauché, donc.
Un embauché, était sur le côté. Et elle voyait que j'appelais, mais elle venait pas, quoi. Elle a pris tout son temps. On est presque venu aux mains avec cette personne-là. On s'est insulté, plein de choses comme ça, quoi. Et voilà, quoi.
Et dis-moi, toi, dans la cité, avec tes copains, etc., qu'est-ce que tu faisais avant?
C'était même pas le chômage, hein. Je glandais dehors, quoi. Comment dire, je restais dehors à rien faire, quoi. Je tournais en rond. Je tenais les murs avec mes copains, quoi. C'est ce que je faisais. Mais après, on a commencé à travailler à Renault. Puis on a commencé à moins sortir déjà parce qu'on était fatigué. Les horaires qu'on avait, on sortait moins. Et ça prenait presque tout notre temps, quoi. À part les week-ends. Il y en a, comment dire, ils ont peur du travail qui est dur, quoi. Alors, c'est-à-dire, ils prennent le travail plus facile, hein, ils restent dehors, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis voilà.
C'est quoi ce qu'ils ont à faire?
Ah, je sais pas, moi, ce qu'ils ont à faire. Leur business, quoi, comme on dit, comme la plupart des jeunes. Dès qu'ils nous voient, ils disent, allez à la chaîne, on est des sortes d'esclaves, ils savent, quoi. Ils disent qu'on est des sortes d'esclaves. Mais nous, on fait tout pour s'en sortir. Bon, ils vivent peut-être mieux que nous. Mais nous, comment dire, on a travaillé, on a su pour ça. Ça fait qu'on est un peu plus fiers, même si c'est dur. Et puis on est un peu plus fort. On est un peu plus fort, puis nous, on n'a pas à se cacher, quoi.
À chaque étape importante de votre vie, il y avait quelqu'un à vos côtés.
Nous accusons Chirac de vouloir se venger bassement en licenciant 17 travailleurs, 14 immigrés, 3 délégués.
Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue.
Daniel, vous, ça fait un moment que vous travaillez chez Renault.
26 ans.
26 ans.
Oui. Et il y a à peu près 12 ans que je suis au Mastic, chaîne Mastic.
Vous êtes une Renault.
Ah oui, oui. Oui, je suis de Renault. Oui, oui, je suis fière de travailler là. Hein.
Parce que vous en avez fabriqué des voitures, des bagnoles.
Hein. Oui, oui.
Vous avez commencé avec laquelle?
Avec la R30.
Bosser à la chaîne, c'est pas évident quand même. Bah, hein, c'est pas...
Prisonnière, hein. La chaîne démarre, faut qu'on soit là, et puis c'est tout jusqu'au bout. Hein. Nos temps de pause, mais ça, les temps de pause, on n'a pas beaucoup de temps de pause. Hein. Comme là, bon ben, je commence à 1h08, 13h08. À 15h30, on a une pause de 7 minutes. À 17h30, une pause de 10 minutes. Et de 19h30 à 19h50, on mange. Ça fait 20 minutes. Ça fait pas beaucoup. Hein.
Avant, il y en avait plus.
Oui. Puis avant, manger à la cantine. Maintenant, il n'y en a plus.
Il n'y a plus de cantine.
Non. Il y a des salles, c'est... quand même, des salles de pour manger, hein, quand même. Hein. Mais bon, bah, moi, je ne vais pas. Hein. J'ai pas le temps. C'est trop loin. Alors, moi, je mange à ma place. C'est triste, quoi.
Ouais, c'est triste, hein, quand même. c'est triste d'être là à sa place et de bouffer sa petite gamelle, hein. Je me demande si Daniel, là, donc 56 ans, à 4 ans de la retraite, elle connaît Mamadou et Samba. Il y a peu de chance. Mais pourtant, Mamadou et Samba, les deux garçons qui viennent de se faire virer, les deux intérimaires, comme dit Samba, eh ben ils rêvent. Leur rêve, c'est ça. Leur rêve, leur espoir, leur carotte, ça a été et puis ça reste quand même. Carotte et espoir savamment entretenu par l'employeur, eh ben c'est d'être embauché, c'est de devenir des Renault. Alors, devenir des Renault, qu'est-ce que les Renault deviennent, Daniel?
Vous faites quoi, vous, précisément? Racontez-moi ce que vous faites, Daniel.
Moi, je bouche les trous.
Boucher les trous? Des petits trous, toujours des petits trous?
Oui, ben, c'est-à-dire... On fait des cordons, quoi. On met aussi des caches pour boucher tous les trous, de manière que le robot puisse pas mettre du mastic dans la voiture, quoi. Ça s'appelle marouflage. On a deux voitures à faire, Laguna et puis Velsatis.
Est-ce que la chaîne, c'est plus facile aujourd'hui? C'est plus dur? C'est comment? Comment ça a évolué?
Ben, ça a évolué, c'est-à-dire, c'est pas que le travail, si vous voulez, est dur, hein, mais c'est que la chaîne va très très vite. Alors, vous savez que vous avez à peine le temps de finir votre voiture, que l'autre est déjà arrivé. Hein. Oh là là, je vois qu'il est bon, ben, à 13h que je vais commencer à travailler. J'ai mon Dieu, je suis pas arrivée à 9h. Hein. Parce que c'est long. Hein. Qu'est-ce que c'est long? D'abord, parfois, j'enlève ma montre. Hein. Je la mets dans un coin pour pas la regarder là, parce que sinon, je suis toujours pendue à regarder la montre. Moi, disons que maintenant, je vous avoue franchement, j'en ai marre. Mais ce qui s'appelle vraiment marre. Avant, j'allais travailler, bon, bah, mais maintenant, j'en appréhende. Plus le quart d'après-midi que le matin. Là, je me lève le matin, je sais que je m'en vais bosser, ça me bouffe. Et puis, il n'y a rien pour nous motiver, rien. Moi, j'ai encore 4 ans à faire. C'est long, quand même, 4 ans. Maintenant que j'y suis, je vais rester jusqu'au bout, hein. Et maintenant, il n'y a que ça, hein. Il n'y a plus de petits boulots peinards, hein. Avant, il y avait quand même pas mal de petits boulots pour des pièces. On faisait des pièces, enfin... Mais maintenant, il n'y en a plus. C'est fait à l'extérieur. Ça fait qu'avant, une personne, si vous voulez, vers les peut-être en 45-48 ans, elle était hors chaîne. Maintenant, on va en chaîne jusqu'au bout.
Vous, vous serez à la chaîne jusqu'à la retraite?
Jusqu'au bout, hein. Ah oui.
1, 2. Ne laissons pas la direction faire n'importe quoi. Tous les syndicats organiseront une collecte pour aider Franck sans salaire depuis un mois.
Quand ils voient qu'on s'entend bien qu'une personne, ça leur plaît pas. Alors s'ils peuvent changer, ils changent. Ils ne veulent pas qu'il y ait de camaraderie, ils ne veulent rien. Qu'est-ce que ça peut leur faire, franchement? Comme je vous dis, la musique, pareil, ils n'aiment pas. Hein.
La musique sur la chaîne, les postes de radio, tout ça.
Alors nous, on n'a pas de radio, nous, c'est nous qui l'amenons, la radio. Hein. Ils nous prennent une petite crise, alors, on chante.
Ah bon?
Ça leur plaît, quoi.
Vous chantez?
Ben, on chante ce qu'ils chantent à la radio, hein. On peut dire que ça leur plaît tellement. Bon. On peut pas partir comme on veut, hein. On a notre carte, hein.
Votre badge?
Oui. On a le tourniquet, là. Vous avez dû voir les
tourniquets. Tourniquet électronique, là, tout ça, ouais.
Ça fait qu'avant, les anciens, ça nous arrivait de les voir. Vous savez, ceux qui sont partis en retraite depuis pas mal d'années, quand ils venaient commander une voiture, et ben, venaient nous dire bonjour en passant. Maintenant, ils peuvent plus, hein. Parce qu'ils ont plus de badge. Eux, ils ont pas de badge. Puis maintenant, les voitures, ça se trouve à l'extérieur. C'est plus dans l'usine pour commander une voiture. Moi, ça fait qu'on veut plus personne.
Alors, nostalgie, bah, c'est toujours mieux avant, c'est toujours mieux. Parce que c'était si bien que ça. Avant, on va finir cette, ce volet, là, aujourd'hui, donc cette troisième émission, avec à nouveau Stéphane Beau et Michel Pialoux. Et puis, on va retrouver aussi Daniel, donc, cette Renault de Sandouville, 56 ans, à 4 ans de la retraite.
Bon, il y a de la nostalgie par référence à une époque antérieure.
Nous, on se demande toujours si c'était pas parce que c'était mieux avant, mais bon.
Mais en même temps, non, je pense que ça, il y a des espèces de conditions structurelles qui ont changé et qui font que les relations entre les gens sont très différentes de ce qu'elles étaient autrefois et peuvent apparaître aux anciens comme dégradées. Hein. La génération actuelle regarde avec nostalgie vers une époque où il y avait, j'utilise aussi ce mot de solidarité, le sentiment qu'une solidarité a...
Alors, est-ce que cette époque est définitivement révolue?
Difficile de dire, mais la question, c'est bien qu'on voit très bien que cet enjeu, c'est la dignité, quoi. La dignité sociale, et qu'est-ce qui se passe quand on perd sa dignité d'une manière ou d'une autre? Alors, il y a toujours la tentation d'aller voir plus bas ou de mépriser ceux qui sont plus bas. Alors, c'est vrai que la question pendante, que je pense qu'il faut, cette question du racisme qui travaille en profondeur à la société française, on la redécouvre à chaque fois que Le Pen fait 20% ou 25%. Mais il nous semble, nous, en tant que sociologues qui travaillons sur les classes populaires, on sent bien depuis 10 ans, 15 ans que ça travaille en profondeur, mais non seulement les ouvriers, mais aussi des autres classes sociales, parce que ces idées-là, elles viennent pas de n'importe où. Donc, on voit très bien que c'est nos idées de base, de issues de notre travail, c'est qu'il faut redonner des formes de dignité, des formes de réassurance sociale à ces gens qui subissent de plein fouet la crise, non seulement depuis 5 ans, mais depuis 15 ans, quoi.
Je suis un peu raciste.
Pourquoi?
Parce que je suis raciste, enfin je suis pas raciste, hein, mais je suis un peu raciste quand même. Il y a trop de choses qu'on voit aussi, hein, qui est pas normal. Comme là, voilà, c'est le ramadan. Ça commence aujourd'hui le ramadan. Pourquoi que le mec qui fait le ramadan, il a le droit de s'absenter pour faire sa prière, il a le droit. Et moi je vais demander pour aller aux toilettes, je dois attendre moi. C'est pas un homme normal. Lui, il a le droit de tout faire, puis moi, j'ai le droit de rien faire. Chez moi. Lui, il est proche, lui. Je regrette.
Il y en a qui sont français.
Oui, mais enfin, ils sont français, ils ont qu'à faire comme nous, les Français. Moi, si je vais chez eux, moi, il va pas falloir que je bouge, il va pas falloir que, hein. Eux, ils font ce qu'ils veulent chez nous, hein. Pourtant, j'ai un gendre qui est arabe.
Vous avez un gendre qui est arabe?
Oui. Il est marocain. Il est gentil, lui.
Mari de votre fille?
Oui. Il est gentil, lui. Mais il y en a des bons, hein. C'est comme je vous dis, il y en a des bons. Hein. Mais parfois, il y en a des sacrés, hein. Des sacrés loulous. Hein.
1, 2.
Ce racisme-là, il est différent de celui qui existe dans d'autres couches de la société, les couches dominantes. Et souvent, j'ai entendu des gens dire à un moment « je suis raciste » et puis parler de la façon dont ils avaient des rapports dans l'atelier et discuter avec des ouvriers algériens ou marocains du comportement de cette personne qui était parfaitement convenable, etc. Je pense que c'est il faut décoder et réinterpréter à chaque fois ces discours sur le thème « je suis raciste ». Je veux marquer, en disant ça, on marque quelque chose. Hein.
« Je suis raciste », ça peut être aussi interprété « je veux pouvoir toucher les dividendes de ma nationalité française ». Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le cadre de concurrence de plus en plus importante, on veut dire « ben voilà, être français, ça devrait donner plus de droits qu'on a ». Et donc c'est aussi ça, c'est par rapport à la perte d'autres droits sociaux, à cette insécurité sociale, donc on pourrait très bien aussi retraduire ça comme ça en disant « il faut qu'en tant que français, je touche des droits ». J'ai des dividendes aussi parce que par ailleurs je souffre de tas de choses. Toutes ces expressions, tous ces mots autour du racisme, il faut à chaque fois décoder particulièrement la manière dont ça a été dit, parce que ça peut être une forme de racisme antigène qu'on va développer aujourd'hui.
Du déclin au défi, voilà ce que j'aurais appris au moins en 21 années dans un pays qui n'est pas le mien. La ségrégation bat à son plein, des traductions truquées, intégration sinon rien, opposée à des traditions trop ancrées. La preuve en est mon nom, aucunement rebaptisé, une drôle de prononciation, une connotation gênante. Arrive tout droit du pays et pas répertorié, une mésentente dans les colonnes de ton calendrier écoué. Tu m'étonnes, mieux vaut rester à faune, ça sonne pas et fout la merde dans tes quotas. Du déclin au défi, une envie d'affirmer son être. S'il faut être craint pour se faire reconnaître, s'il faut mettre fin à des institutions suspectes pour qu'on te respecte, le défi est ouvert, ma communauté est fière. Trop terre à terre, trop endurci par la souffrance de mes ascendances, pour leur indépendance à raison, le maintien dans l'ignorance. La désillusion devient la forme d'agression la moins efficace du colon. L'immigré résident en Occident le comprend plus, il s'attarde sur les pans, plus il s'éloigne dans leur renseignement. Les connaissances accumulées deviennent les armes les plus solides. Si mes coutumes sont pas mises en danger, mes racines me guident. Ma culture définit le lien entre ma couleur et l'ampleur du défi. Les outils sont les mêmes, les problèmes n'ont pas changé. Ce sont les moins informés qui sont le moins bien équipés. Du déclin au défi, ma fierté m'appartient. Mon potentiel culturel me prête main forte contre n'importe quel sentiment de rejet que l'Occident conforte. Un élément nocif qui fait du rap à but lucratif, qui chante sous la pluie et étudie pour rester nocif. C'est coué le poison d'avril, mon sauveur définit une stratégie qui consiste à m'infiltrer. Un espion avec du rap comme occupation, un moyen d'infiltration, de communication plus. Sachant que les différents blocus deviennent très vite des tremplins, pousse ma vision loin pour améliorer mon quotidien. Du déclin au défi, voilà ce que j'aurais appris au moins en 21 années dans un pays qui n'est pas le mien.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à Stéphane Beau et Michel Pialou, à Franck Samba, Mamadou et Daniel. Si vous souhaitez réagir à cette émission, 01 56 40 37 37.